7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Baptiste Nellis.
Hello, thank you for having me.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup d'être là. S'il fallait vous présenter, je pourrais dire que vous êtes l'un des écrivains américains contemporains les plus importants. Dans White, l'essai autobiographique que vous publiez, il y a quelques lignes d'ailleurs qui évoquent votre statut. À la différence de mes pères, dites-vous, je n'étais pas poliment ignoré quand un critique n'aimait pas mes livres ou il ou elle s'en prenait à moi à fond. Et je doute qu'aucun autre écrivain de ma génération ait eu droit à des critiques pires que celles que j'ai reçues. On va évoquer à la fois votre art et la manière dont celui-ci a été reçu, mais tout d'abord, je dois dire qu'il y a une nouveauté parmi vos pratiques, puisque aujourd'hui, vous êtes également l'auteur d'un podcast. Vous recevez un certain nombre de vos contemporains, des chanteurs, des écrivains, des acteurs de cinéma. Pourquoi avez-vous décidé de faire un podcast, Bret Easton Ellis?
Parce que c'était une façon de communiquer avec les gens, hors des réseaux sociaux, hors de Twitter, de Facebook. C'était une façon de faire connaître mes avis de façon globale, et pas pour quelqu'un qui serait capable de ne prendre qu'une partie de ce que je dis, de voir juste un tweet et de juger là-dessus. Donc ce que le podcast a fait pour moi, ça m'a donné la liberté de m'exprimer d'une façon qui était totalement et globalement libre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Franchement, je suis un petit peu étonné que des gens écoutent un podcast de 3 ou 4 heures, parce que les gens ne lisent pas un papier de 3 à 4 000 mots. Donc un podcast est devenu une excellente manière de communiquer ce que je pense.
Dan White, vous racontez comment, après avoir publié Less Than Zero, votre premier roman, vous avez été approché par la presse, vous avez commencé à devoir faire des papiers. Est-ce que c'est une manière plus contemporaine, le podcast, de faire du journalisme, plus contemporaine que ces longs articles qui aujourd'hui, dites-vous, sont moins lus qu'auparavant ?
Yes, certainly it is.
Tout à fait. C'est tout aussi valable, je pense. Mon podcast, qui est le Bret Easton Ellis podcast, c'est seulement par abonnement. C'est un podcast où, pour les premières 40 minutes de chaque podcast, je ne fais que parler seul, sans invité. Je parle du cinéma, de la culture, des romans, avant de faire intervenir mon invité. Ça me donne l'occasion de parler de tas de choses et je ne sais pas autrement où est-ce que je les placerais, où est-ce que je les mettrais, quel journal, quel magazine publierait ça. C'est mon show, c'est mon émission et je fais ce que je veux. Et ça clarifie mes positions, mes opinions, pour qu'elles ne soient pas mal comprises ou sorties de leur contexte, comme ça l'est tellement fait et d'une mauvaise manière.
On va écouter un extrait justement de l'un de ces podcasts, Bret Easton Ellis. Vous receviez l'acteur James Van Der Beek et vous échangiez sur votre situation d'homme blanc.
Where I'm looking at this landscape right now.
Quand je regarde le paysage actuel, en tant qu'homme blanc, hétéro, cisgenre, chrétien, issu de la classe moyenne, qui a aussi été célèbre pour avoir eu cette vie, je coche toutes les cases des privilèges qu'on peut avoir. Il n'y a vraiment aucune situation où je peux dire « Voyons, je sais ce que c'est ». J'ai le sentiment que c'est mon devoir aujourd'hui d'écouter. Si quelqu'un dit d'une situation que c'est terrifiant et que c'est douloureux, j'ai l'impression que si je disais « Enfin, ça n'est pas si terrible », ça serait vraiment déplacé. Si les propos d'une personne me mettent mal à l'aise, si je refuse de comprendre que ce que j'ai fait a pu offenser ou blesser quelqu'un, si c'est douloureux, je dois quand même prendre sur moi.
Et vous lui répondez, Bret Easton Ellis, que ce n'est pas une raison pour rester silencieux et que c'est ce qu'ils veulent, que l'on reste silencieux. Comment appréhendez-vous l'invité, le fait de faire une interview? Parce que ça, c'est quelque chose de différent de l'exercice journalistique écrit. Comment l'envisagez-vous, Bret Easton Ellis?
Well, the first thing I do is I want to talk about their childhood and their adolescence.
La première chose que je veux faire, c'est parler de leur enfance, de leur adolescence, pour avoir une notion de ce que sont ces gens. Je connais leur œuvre, je connais leurs films, mais je voudrais savoir comment ils ont été élevés, quels étaient les idéaux, les aspirations qu'ils ont eues en tant qu'enfants, en tant qu'ados. Et ça me donne une idée assez bonne de l'adulte qu'ils sont devenus. Donc c'est toujours une très bonne manière d'entrer dans la conversation. Et je ne les considère pas comme des interviewés, comme si c'était une conversation. Et je veux parler autant, certains disent trop, que mon invité. Ma culture, c'est que quand une chose m'intéresse, eh bien, la culture m'intéresse vraiment. C'est pas une émission d'interview, c'est mon podcast, je parle de ce qui m'intéresse. Et parce que je suis intéressé sur un sujet ou un autre, j'en parle avec un invité.
C'est étrange parce que dans White, cet essai autobiographique que vous publiez chez Robert Laffont, Bret Easton Ellis, il est question de votre enfance et on découvre que vous êtes né dans une famille de la classe moyenne américaine, une famille beaucoup moins singulière que votre œuvre, même si vous bénéficiez d'une certaine liberté, vous alliez voir des films qui n'étaient peut-être pas de votre âge. Qu'est-ce qui explique justement, si vous considérez qu'il y a dans l'enfance les clés d'une personnalité, qu'est-ce qui explique que vous êtes devenu cet écrivain si controversé, si novateur également ?
Look, I don't know because I never set out to be a controversial writer.
J'ai jamais décidé d'être un auteur controversé. Ça m'est juste tombé dessus. Ça m'est tombé dessus dès mon premier livre. J'ai jamais pensé que mon œuvre était controversée. Je n'ai jamais voulu écrire des romans controversés. Je voulais m'exprimer librement et souvent j'écris des livres sur le fait de savoir où j'en étais, quelle était ma place dans la société en tant que jeune homme, en tant qu'homme vivant dans les années 80 à New York, si c'était une célébrité d'une certaine sorte, ou simplement un auteur solitaire dans une maison hantée. J'ai toujours été intéressé à suivre la trajectoire de ma propre vie. Et parfois, ces livres étaient surréalistes, violents, sexuels, mais dans le même temps, c'était simplement des romans pour moi. Et c'était pas des provocations. Je voulais choquer personne. Parce que moi, ça me casse les pieds de vouloir choquer les gens. Ce que je voulais faire, moi, c'est simplement m'exprimer aussi librement que possible. Et je pense que la réaction, c'est ce qui cause les controverses. C'est pas moi qui cause la controverse. Je ne peux pas causer une controverse. C'est les médias qui créent la controverse. Une réaction. Ils ont réagi très fortement à certains de mes livres. Et voilà, c'est ça. C'est là la controverse.
On va revenir sur ces différentes controverses, notamment sur American Psycho en 1991, où vous mettiez en scène un serial killer, probablement votre roman qui a été le plus controversé. Mais même si vous ne cherchez pas à faire la polémique, puisque après tout, pourquoi ne pas vous croire, vous mettez en exergue l'importance de la liberté. Vous avez toujours dit que vous étiez libre, que vous vouliez être libre et que finalement vous ne vous souciez pas des réactions que vos livres ou vos propos allaient susciter. C'est vrai, Bret Easton Ellis ?
Yes, that is true.
Oui, c'est vrai. Une fois que le livre est terminé, une fois qu'il est finalisé, pour moi c'est fini. Mais je passe au suivant. Ce livre-là est terminé, il sort au monde, et puis les réactions se produisent. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Ça ne fait pas partie du processus créatif. Ça ne fait pas partie du processus d'écriture du livre. Ça ne m'intéresse pas tous les autres processus. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture du livre. Voilà, vous finissez le bouquin, un an après, c'est publié. Et puis après, vous travaillez sur autre chose. Et les autres gens, les autres personnes ont des réactions en faveur, contre, ah, c'est trop violent, trop de drogue, trop sexuel. Mais non, c'est fini, moi j'ai terminé ça, hein, et je passe à autre chose. Et je sais même pas si ça va intéresser les gens ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres. C'est ça mon boulot. Mon boulot, c'est pas de tenir votre main et de vous dire comment lire le livre. C'est d'écrire les bouquins que je veux écrire, et c'est
alors,
tout.
on prend l'exemple d'American Psycho, le roman que vous avez publié en 1991. Il dresse le portrait de Patrick Bateman, qui est un yuppie ultra riche, qui va se transformer en tueur en série particulièrement sadique, qui s'en prend à des femmes, Bret Easton Ellis. Et dans White, vous racontez qu'après avoir passé de longues journées à travailler sur ce livre, vous l'avez fait lire au compagnon de l'époque, et que ce compagnon vous avait dit « Mais bon, si tu publies ça, tu vas vraiment faire scandale. » Et là, vous êtes tombé des nues.
Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Moi, je pensais que American Psycho était devenu comme un roman expérimental. Et en fait, qui intéresserait une quinzaine de personnes. Toutes ces descriptions de vêtements, toutes ces descriptions de musique, des critiques musicales. Et puis, cette violence scandaleuse. Pour moi, ça ne devait jamais devenir un best-seller. Quelque chose qui aurait été lu par des millions de personnes. Mais c'est quelque chose que je voulais vraiment écrire parce que c'était ce que je ressentais à ce moment-là. Et je pensais que mon livre suivant, Glamorama, serait beaucoup plus lu, et ce qui n'a pas été le cas. American Psycho est devenu un roman extrêmement lu. J'ai pas cru mon partenaire. J'ai pensé qu'il ne le lisait pas correctement. J'ai cru qu'il voulait me surprotéger et qu'il ne voyait pas quelle était l'intention artistique. C'était un lecteur nerveux. Et il m'a rendu nerveux, moi. Mais finalement, je change rien. J'ai rien changé à cause de ses réactions. Et le livre a été publié exactement comme je l'ai écrit. Et je voulais raconter cette histoire à nouveau dans White, parce que ça vous dit à quel point l'auteur en sait peu sur les réactions qu'il va y avoir à ses livres.
Mais en 1991, tout le monde ne vous connaissait pas encore, Bret Easton Ellis, et on se disait, mais qui est ce dingue qui décrit des meurtres de femmes de manière aussi précise? Il y a une dose de perversité qui est absolument inacceptable chez lui. Vous saviez quand même qu'on allait se dire ça?
Oui, mais la perversité dans un roman, des tas de choses peuvent être acceptées. C'est de la fiction, c'est pas la réalité. La littérature, c'est des fantasmes. Le roman est un rêve. C'est pas un documentaire. Et je ne perpètre pas ces actes moi-même. Et un acte de misogynie, dépeindre la misogynie, ce n'est pas être misogyne. Beaucoup de choses dans American Psycho, c'était des critiques d'un style de vie que j'ai vu, qui se formait autour de moi quand j'ai écrit ce livre à la fin des années 80. Mais oui, qui était cette personne? Qui était cet écrivain controversé qui soudain est devenu le prince noir de la littérature américaine? C'est pas moi. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Mais certains critiques l'ont vu comme ça. Et ça m'a suivi depuis 30 ans.
Vous écrivez à ce sujet dans White, les sentiments ne sont pas des faits et les opinions ne sont pas des crimes et l'esthétique compte encore et défendre une esthétique et la raison pour laquelle je suis un écrivain, des choses qui sont vraies sans toujours avoir être factuelles ou immuables. Mais combien de personnes raisonnent encore ainsi, Bret Easton Ellis?
Oh, I don't know. I would hope many. I would hope
J'aimerais
many.
Bien qu'il y en ait like beaucoup.
Not on all topics.
Pas sur tous les sujets, d'accord. Mais le passage que vous avez lu, par exemple, une neutralité calme pour regarder le monde. Je crois que c'est important. Et ça nous manque. Je crois que les gens sont très en colère, très divisés, plein d'émotions. Ils agissent de façon émotionnelle sans réfléchir. Et j'espérerais que les gens se calme un peu, soit capable de voir les deux côtés de l'histoire. C'est quelque chose d'important à comprendre, ce que quelqu'un d'autre pense et ressent. Et c'est un des arguments qui se trouve au sein de ce livre, White.
Et d'où vous vient cette liberté? Justement, puisque vous décrivez vos parents, votre enfance, on ne voit pas le lien qu'il y a entre cette enfance d'Américain moyen et cette existence d'écrivain, comment dirais-je, novateur. Allez, j'utilise un euphémisme.
Oh, well, there was so much freedom in my childhood.
Il y avait tellement de liberté dans mon enfance. J'ai eu une enfance des années 1970. Je suis un enfant de la génération X. On avait tellement de liberté pour s'exprimer, écrire tout ce qu'on voulait. Et en vivant dans un monde d'adultes, ce n'était pas un monde fait pour les enfants à l'époque. Et ça s'est produit, ce genre de liberté d'expression s'est produit pendant mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Ce dont il est question, c'est où s'arrête cette liberté? Où est-ce que, au cours des dernières années, nous avons commencé à avoir un manque de liberté d'expression? Lorsque on a commencé à se dire, ah non, on peut pas dire ça, on peut pas s'exprimer de cette manière-là, on peut pas écrire ça, on peut pas tweeter ça. Ça, c'est vraiment la trajectoire d'une certaine liberté qu'avait cette génération. Et maintenant, c'est une sorte de friche où il y a des centaines de règles sur la façon dont on peut s'exprimer et dont on peut faire de l'art. Pour moi, tout ça est dangereux. Pour moi, c'est le problème qui se trouve au cœur de ce livre.
Au cœur de ce livre, effectivement, il y a la liberté d'expression. Vous évoquez d'ailleurs qu'un point bas a été atteint aux États-Unis lorsqu'en 2015, le Pen Club a décidé de ne pas accorder un prix à Charlie Hebdo, un prix pour la liberté d'expression. Expliquez-nous ce qui s'est passé et quelle a été votre réaction à ce moment-là, Bret Easton Ellis.
Ce
que le Pen Club voulait faire, c'était de créer une récompense pour Charlie Hebdo. C'est d'ailleurs le prix de la liberté d'expression. Super. Moi, j'étais totalement en soutien de cela. Il y avait des membres de Pen, une organisation littéraire très importante aux États-Unis, qui ont commencé à écrire des pétitions contre cette récompense parce qu'ils n'aimaient pas le contenu de Charlie Hebdo. Moi, j'ai jamais pensé au contenu de Charlie Hebdo. Je pense que c'était, en fait, le principe de ce qui s'était produit. Et c'est ça, la liberté d'expression, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et ce moment terriblement sombre. Mais heureusement, on a gagné et nous avons pu donner cette récompense à Charlie Hebdo. Peu importe que vous aimiez, que vous n'aimiez pas le journal, les gens ne doivent pas être assassinés parce que d'autres personnes se disent offensées par l'expression des premiers. Et c'est ce qui pénètre dans toutes les facettes de la vie américaine. Que vous fassiez une blague, que vous diffusiez un tweet, que vous disiez quelque chose de controversé dans une interview. À ce moment-là, vous devenez interdit, banni. Et c'était une des premières fois que j'ai senti que ça se produisait quand les Américains ne voulaient pas donner cette récompense à Charlie Hebdo, parce qu'ils sentaient que ça marginalisait certaines personnes. Mais toute comédie porte sur une marginalisation, et quand vous commencez à fermer ces portes-là, je ne sais pas ce qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? De quoi peut-on parler? De quoi peut-on rire? Alors, qui allez-vous offenser en parlant? C'est un problème. Je ne pense pas que ce soit du sexisme ou de l'homophobie, du racisme. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le puritanisme. Puritanisme dans le fait de garder, d'infantiliser tout le monde et ne pas laisser les gens devenir adultes.
Bret Easton Ellis, White, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Robert Laffont. Vous êtes traduit par Maître Zlotowski. On vous retrouve dans quelques instants. On va continuer d'évoquer avec vous les différents thèmes que vous abordez dans ce livre. La manière dont vous envisagez votre littérature. Qu'est-ce qui a construit votre œuvre? Et puis, on parlera aussi un peu politique. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ceux qui disent des choses au sujet de Donald Trump.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
8h22, nous sommes en compagnie de l'écrivain américain Bret Easton Ellis qui publie White chez Robert Laffont. Il y a un personnage dans votre œuvre, notamment dans American Psycho, le roman que vous avez publié en 1991, où il est question d'un serial killer. Et dans ce roman, on trouve Donald Trump, Bret Easton Ellis, avec une description de cet homme. Je crois que c'est un homme auquel vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup songé. Pourquoi Trump vous intéressait-il à l'époque et qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Well, I don't know if Trump was Je
ne sais pas si Trump m'intéressait, mais c'était intéressant pour beaucoup de gens dans la rue que j'ai interviewé quand j'écrivais American Psycho et quand je créais le personnage de Bateman. Et ils aiment tous Donald Trump. Ils voulaient tous être Donald Trump. Il faut vous souvenir, Donald Trump était beaucoup plus jeune. Il avait l'air nettement mieux. Il vendait un bouquin. Il l'a beaucoup vendu. Il prétendait être très riche. Et c'était quelqu'un que l'on admirait à l'époque. Moi, je comprenais pas. Moi, j'ai pas compris. J'ai fait ma recherche. J'ai fait les liens entre lui et les histoires d'immobilier auxquelles son père était mêlé. Je pensais que c'était amusant de l'introduire dans un roman tel que celui-là comme figure paternelle.
Et
moi, en fait, j'ai écarté mes propres sentiments sur Trump à l'époque, en 87, 88, 89, alors que j'écrivais, je le décrivais dans American Psycho. Et je pensais avoir compris à l'époque que tout était possible au sujet de Donald Trump. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte à quel point c'était possible. Mais je ne pensais pas qu'il pourrait arriver à la présidence. Mais voilà, qui le pensait à l'époque?
Alors, je crois qu'il est arrivé à la présidence depuis Bret Easton Ellis. Et dans White, alors cette fois-ci, vous évoquez, vous critiquez les critiques adressées à Donald Trump. Vous dites que finalement, il y a une certaine forme de posture morale, aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, que vous ne supportez plus. Expliquez-nous pourquoi.
Non, I can't bear it anymore.
Non, je ne supporte
the resistance
plus.
And this
la
new,
résistance
the
et ce néolibéralisme est encore pire que le Trumpisme. Et il faut en sortir. En fait, quelque chose s'est produit qui a tellement déstabilisé la gauche de ce pays. En fait, les États-Unis, ils sont rentrés dans une dépression qui n'a pas créé simplement ce sentiment de supériorité. Ah, les gens qui ont voté pour Trump, c'est des racistes. Un type qui a gagné les deux tiers des votes dans ce pays, quand même. Et ces gens de gauche agissent comme s'il y avait 10 racistes blancs qui avaient mis ce type à la tête des États-Unis. La réaction a été tellement hystérique que c'est un média ne peut plus être cru. Les médias sont tellement hystériques au sujet de Trump qu'il y a des titres dans le New York Times qui sont véritablement des mensonges, comme on a vu la semaine dernière au sujet de Kavanaugh à la Cour suprême. En fait, ces gens-là vont dire n'importe quoi au sujet de Trump. Et en fait, aux États-Unis, les gens suspectent maintenant les médias. Bon, allez. Disons qu'il a gagné avec 45 ou 50%. Mais les gens et les médias ne sont crus qu'à 18%. Donc, il faut traiter Donald Trump de façon calme et raisonnée, de dévoiler l'homme véritable. Je pense que si on avait parlé de lui de façon plus équitable au cours de l'élection, je ne pense pas qu'il aurait été élu. Mais en fait, lui, il est apparu comme l'outsider, celui qu'il fallait aider en fin de compte. Donc moi, je suis l'anti-Trump. Comprenez-moi bien, je ne suis pas pro-Trump. Mais je pense que l'horreur qu'il inspire aux gens est totalement disproportionnée.
Oui, mais d'un côté, dans l'univers de Bret Easton Ellis, dans votre univers, il n'y a que des personnalités préfabriquées. Je vais d'ailleurs lire un extrait d'American Psycho où votre personnage principal, qui est un serial killer mais aussi un yuppie travaillant à la banque, dit « Je suis un moi-même préfabriqué, je suis une aberration, un être non contingent, ma personnalité est une ébauche informe, mon opiniâtre absence profonde de cœur. » Et c'est dans cet univers-là finalement qu'on découvrait dans votre œuvre Donald Trump. Aujourd'hui, il demeure le même Donald Trump. Est-ce que ça n'est pas un symptôme aussi de cette Amérique que vous décrivez depuis vos 21 ans et qui est une Amérique, comment dirais-je, absolument détestable, qui n'a plus que le cynisme au cœur?
D'une certaine façon et de beaucoup de façons, oui. Certainement, c'est vrai. Et c'est un pays qui a perdu sa boussole. C'est un pays qui ne sait pas où il va. Ce qui est tellement choquant pour moi dans ma vie, c'est de voir ce changement. C'est pas un tel changement, en fait. Comment la gauche est devenue un parti autoritaire et totalitaire qui a une liste de règles sur la façon dont les gens doivent s'exprimer, les artistes doivent s'exprimer, ce qu'ils doivent écrire, quelles sont les plaisanteries qu'ils peuvent dire et cela. Et je pensais ne jamais vivre dans un monde à voir l'émergence d'un tel totalitarisme venant de la gauche dans notre pays. Et ça m'a en fait fait passer plus vers le centre de l'île, si je peux dire. Et cette surréaction sur Trump, ça vient de là. En fait, c'est comme je le disais précédemment, ce puritanisme qui pousse à infantiliser les gens.
Mais alors, vos critiques contre les démocrates, est-ce que ça fait de vous un républicain, Bret Easton Ellis ?
J'espère que non.
À cette époque, non. Je ne suis pas du tout républicain, je ne suis pas un conservateur. Je ne vais pas voter pour Trump. Mais je suis critique de l'establishment dans mon pays. Je suis critique des réactions démocrates à Trump et principalement un groupe de personnages qui sont dans White, dans le passage sur le Beverly Hills de Los Angeles après l'élection, où je revois tous mes personnages de Moins que zéro et d'autres livres et qui se sentent savoir absolument qui doit être président et que Trump soit le pire, bien que Beverly Hills ait voté pour Trump. Oui, je suppose que ça a toujours été là. Et je crois que, en tant que tenant de l'absurde, je considère Donald Trump comme ce texte hyper réel qui émerge de tout ce dont on a parlé précédemment. Combien de temps va-t-il rester? J'en sais rien. Il peut être parti dans quelques années, mais peut-être que pas.
Dans White, vous évoquez votre homosexualité. Est-ce que ça, c'est important? Alors, c'est important dans votre esthétique, on va en reparler dans quelques instants, mais sur le plan de vos engagements, de vos engagements, d'ailleurs, le terme est assez mal choisi vous concernant, mais en tout cas, votre manière de voir la société, est-ce que ça compte le fait d'être gay, Bret Easton Ellis?
Non.
La seule façon dont c'était important, c'était quand j'étais plus jeune. Et je me suis rendu compte que j'étais différent. Je ne faisais pas partie du groupe. Il faut comprendre qu'être gay, ça représente 5% de la population. Quand je grandissais, quand je formais mon esthétique et que je devenais écrivain, c'était très important pour moi parce que ça m'a fait me séparer et voir le monde tel qu'il était véritablement. Je n'étais pas engagé comme mes amis sans y penser. J'étais dans les marges et je regardais les choses de très près. Mieux que mes amis hétérosexuels, eux faisaient partie du monde. Et moi, j'étais contraint de me mettre de côté et de regarder le monde d'une façon différente. Et de l'expérimenter d'une façon différente. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu être écrivain, artiste, et m'exprimer de la sorte. De ce point de vue-là, c'était important. Mais moi, ça ne m'a jamais inquiété. Je ne pensais pas que j'étais un canard boiteux. Ça ne m'a pas torturé, ça ne m'a pas traumatisé. Je n'ai jamais considéré moi-même comme marginalisé ou comme victime.
Avez-vous la sensation d'appartenir à une communauté gay, Bret Easton Ellis?
Je n'appartiens à aucune communauté. Non, j'appartiens pas à la communauté gay. J'appartiens à une communauté qui ne fait pas partie du groupe mainstream de la communauté gay.
I'm more aligned with Morrissey, who's also very controversial.
Vous savez, je suis plutôt du côté de Morrissey ou Chuck Palahniuk plutôt qu'avec les gays du mainstream. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là.
Alors, en revanche, il y a une manière de voir, notamment une sensibilité que vous développez dans White. Il y a, par exemple, quelques pages sur le film American Gigolo, où l'acteur principal était Richard Gere. J'aimerais d'ailleurs que vous nous disiez pourquoi ce film vous a marqué. Ce sont des pages extrêmement brillante pour un film. Je vois Frédéric Seitz qui est trop jeune pour avoir vu ce film quand il est sorti. Ça n'est pas un film majeur et vous faites quelques pages qui sont absolument sublimes au sujet de ce film, Bret Easton Ellis.
I wish I'd written more.
J'aurais souhaité en écrire plus sur ce film. J'aurais souhaité écrire plus sur les films dans ce livre. Et une des choses sur lesquelles j'écris, c'est American Gigolo. C'était un film qui est sorti au bon moment, j'avais le bon âge, et il y a une sorte de collision. On a fait une sorte de coalition. Ce qui m'a fasciné, c'était que c'était un film au sujet du fait de jouer, d'acteur. Il y a un chapitre là-dessus. Et j'utilise American Gigolo comme un exemple. C'est une métaphore sur la façon dont on vit, sur la façon dont nous vivons tous notre vie quotidienne, une variété de rôles. Mais le gigolo, incarné par Richard Gere, c'est qu'il est payé et il tombe dans une histoire de meurtre et il doit imaginer comment ne plus être acteur, comment devenir quelqu'un de réel plutôt que d'être le chauffeur ou le décorateur intérieur ou tous les rôles qu'il joue dans le film. Et pour certaines raisons, quand je pense aujourd'hui à American Gigolo, et quand j'écrivais cela, j'ai pensé que c'était une métaphore tellement intéressante au sujet de la vie d'aujourd'hui, en raison des réseaux sociaux, en raison de la façon dont on s'exprime. On est tous devenus acteurs. Je ne sais pas si c'est heureux, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Vraiment dangereux.
Mais ça, c'est un point commun dans tous vos livres, où quasiment, en fait, vos personnages, Bret Easton Ellis, sont les premiers spectateurs de la dissolution de leur personnalité. Par exemple, Patrick Bateman est votre serial killer, dit de lui qu'il n'existe pas de moi réel, juste une entité. Et la plupart de vos personnages sont accablés par leur poids, par le poids de leur identité qu'ils ne trouvent pas. Et du coup, la drogue et l'alcool est à peu près leur seul échappatoire. C'est cela, en fait, qui constitue en quelque sorte votre manière d'envisager vos personnages, Bret Easton Ellis.
Well, I think it is existence. It is existence.
C'est l'existence. Ça fait partie de la vie. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de considérer cela comme faisant partie de mon travail. Non, c'est un reflet des dangers, des problèmes de l'existence.
And nothing more complicated than that.
Il n'y a rien de plus compliqué que ça.
And I think most of the time,
la plupart du temps, ce sont des gens qui sont dans un environnement qui les contraint ou les encourage à agir, en fait, de jouer, d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et une grande partie de mes livres, ce sont les gens qui tentent de s'extraire de cet environnement, que ce soit Clay dans Moins que Zéro ou Bateson dans... American Gigolo. Ou même Richard Gere dans American Gigolo.
Et il n'y arrive pas du tout, et c'est la raison pour laquelle le meurtre est par exemple une échappatoire. Mais ce qui a été un tel choc quand ma génération a lu vos premiers romans, notamment Less Than Zero, vous aviez 21 ans à l'époque, je crois qu'Aurélien Bélanger, que je vois autour de la table, a eu ce même choc, c'est que vous évoquiez des choses que l'on n'évoquait pas dans les romans. La drogue, je parle des drogues modernes, pas des drogues des anciens. Vous évoquiez la musique et le cinéma, c'est-à-dire ce que l'on écoutait, New Kids on the Block, les Eagles, bref, ces différents groupes. Et puis, vous parliez de marques. Je vais citer par exemple un extrait d'American Psycho. Vous décrivez un personnage. Il porte un costume de lin Canali Milano, une chemise de coton Ikebear, une cravate de soie Bill Blass et des Brooks Brothers à lacets et bouts ferrés. Et ça continue, c'est quasiment un exercice oulipien avec... des marques. Comment avez-vous décidé finalement que l'on pouvait faire entrer en littérature des marques, que l'on pouvait faire entrer la musique qu'on écoutait et les films qui construisaient nos imaginaires?
I don't know. It's very interesting.
Je ne sais pas. C'est intéressant. Je me souviens d'écrire ainsi très jeune. J'avais 14, 15 ans. J'écrivais mes fictions. Ça semblait juste et en place de faire rentrer les films qu'on voyait, la musique qu'on écoutait. Ça faisait partie de ma vie. Et je pensais que ça devait être aussi reflété par les personnages. un prof à la fac où je suis allé, quand il a lu mes premières histoires, il m'a dit, il faut sortir cela. Il parle d'un film actuel et toutes ces chansons qu'on entend, un événement qui sera oublié dans quelques semaines. Et je me dis, non. Et en fait, il m'a dit, le prof, tu vas finir sur les déchets de littérature. Ça sera de la littérature morte. Moi, je m'en fichais. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai pensé que c'était une façon active de faire un miroir de ma génération. Et c'était les choses que ma génération aimait à l'époque. Je l'ai perçu ainsi. C'est pas comme si j'avais une idée grandiose ou un schéma général. Non, ça semblait réel à l'époque où je l'écrivais.
Et alors cet art, il arrive en quelque sorte au pinacle avec White, votre dernier essai autobiographique. Vous êtes capable de parler de détails absolument insignifiant, allais-je dire, de la pop culture. Vous êtes par exemple capable d'évoquer une chanson des Bangles, Manic Monday, qui n'est probablement pas un chef-d'œuvre. On va en écouter un extrait quand même pour rafraîchir la mémoire des auditeurs. Tout le monde, à peu près, a en tête cette scie musicale. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Manic Monday des Bangles, Mattiston Ellis?
What can't be said about
Mais qu'est-ce
Manic
qu'on
Monday?
Ne peut pas dire Prince. Hein, c'était Prince. Prince, c'est un grand chanteur. J'utilise Manic Monday comme un exemple d'une des premières fois où j'ai entendu parler de l'appropriation culturelle. Et j'en parle dans mon bouquin. Quand je parlais à une amie femme en 86, quand Manic Monday, c'était vraiment une chanson intéressante. Et je lui ai dit, c'est une bonne chanson. Et elle m'a répondu, j'arrive pas à supporter cette chanson. Elle sait pas quoi porter, elle sait pas comment se maquiller, elle pense à son mec. Moi, j'ai dit, mais c'est une chanson sur une femme qui aide un copain qui n'a pas de travail. Et c'est vraiment une chanson féministe. Et elle n'était pas d'accord du tout. Elle pensait que ça avait été écrit par Prince et que c'était chanté par Susanna Hoffs, qui est devenue sexy Susanna plutôt que quelque chose d'autre. Et ça l'a beaucoup ennuyé. Et j'ai détaillé ça comme un des premiers exemples que j'avais d'être confronté avec quelqu'un qui n'était pas d'accord comme ça. Bon, je suis désolé que ça ne soit pas une discussion sur Flaubert, mais c'était sur une chanson.
Alors, il y a malgré tout des discussions, peut-être pas sur Flaubert, mais par exemple sur Joan Didion, qui est une grande écrivaine américaine et qui fait partie de vos références. Qui sont justement ces références, ces auteurs que vous avez lus, ceux qui vous aident à penser Bret Easton Ellis, indépendamment de cette pop culture, puisque votre livre White ne porte pas uniquement sur la pop culture.
Je peux dire que sans John Didion, il n'y aurait pas eu White, il n'y aurait pas eu de la non-fiction.
Il faut la présenter
jamais publié
au public français.
De la non-fiction précédemment.
Who is John Didion? Joan Didion is not as known here
Joan
as I
Didion n'est
as
pas
I
aussi
thought.
Connue ici comme je l'aurais cru. C'est un écrivain américain radical qui était une grande journaliste lorsqu'il y avait le grand journalisme dans les années 70-80. Elle a écrit un très grand roman qui était prétendument sur Hollywood, mais sur la dépression des années 60. C'était un reporter, un journaliste, et elle a eu deux bouquins publiés sur la mort de son mari et sur la mort de son enfant. Un enfant avec lequel je suis allé à l'école, que je connaissais bien. Mais c'est une très grande styliste. Et je parle de Joan Didion dans White parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit être dit au sujet du style. Que le style est tout. Tous les personnages sont présentés. C'est la façon dont on raconte l'histoire. La façon dont on parle des personnages. Elle était l'écrivain qui m'a le plus enseigné sur l'importance du style. Très grand écrivain. Et j'aurais souhaité qu'elle soit beaucoup plus publiée qu'elle ne l'est.
Bret Easton Ellis, White, votre essai autobiographique J'ai trouvé qu'il y avait des passages vraiment formidables sur notre époque. C'est publié chez Robert Laffont. Ça, c'est pour vous lire. On peut aussi retrouver vos romans American Psycho et Moins que Zéro qui sont publiés en poche. Vous voir lors de la 4e édition du salon Fnac Livre qui va se tenir d'aujourd'hui à dimanche prochain à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e avec beaucoup d'autres auteurs également, Jean Jouzel, Jean-Paul Delfino, Alexis Ragugno et Mathieu Palin notamment.